Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission de cinéma sur Divergence FM tous les mercredis de 13h30 à 14h30 avec une rediffusion. Ce sera sans doute la dernière aujourd'hui à 18h jusqu'à 19h. Après, eh bien, c'est la nouvelle grille qui commence et il n'y aura plus de rediffusion apparemment. Voilà, Cinérama, ce sera un one shot. Bonjour à toute l'équipe.
Salut.
Salut.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, et si vous avez été attentif, nous sommes 5 autour de ces micros. Eh bien, on va commencer par parler du sommaire. Qui veut se lancer ?
Allez, c'est parti. Alors, eh bien, simplement aujourd'hui, on va faire un petit truc rigolo, à savoir une grosse discussion autour du film District 9 de Neil comment ? Alors, Neil, parce que...
Blomkamp.
Blomkamp, voilà.
Voilà, parce que vous êtes 4 à l'avoir vu. Il n'y a que moi qui ne l'ai pas vu, ce... Donc ce sera en toute fin d'émission, sinon eh bien, moi j'ai prévu une partie d'interview de Claude Miller et Nathan Miller pour leur film Je suis heureux que ma mère soit vivante. Ils étaient présents ici à Montpellier au Diagonale, donc eh bien, on parlera cinéma avec ce grand réalisateur qui est Claude Miller. Et puis un petit son aussi, toujours dans cette série, on va voir les musiciens pour voir quel est leur rapport au cinéma avec Sean Connery, un rappeur d'une quarantaine d'années, voilà, qui nous parlera de son cinéma, qui est plutôt un cinéma populaire. Voilà. Et puis sinon, Martin, toi, tu...
Eh bien, c'est à moi que revient le rôle d'ouvrir cette émission. Donc je vais vous parler en fait du dernier film de Robert Guédiguian, L'armée du crime, donc, qui est sorti la semaine dernière. Donc voilà, avec ce nouveau film, Guédiguian s'intéresse aux heures sombres de l'occupation nazie entre 1941 et 1944. Et il va reconstituer en détail les faits d'armes de l'armée du crime, donc, qui est le titre du film. C'est une faction du FTP-MOI dirigée par Missak Manouchian, aussi connu sous le nom du groupe Manouchian. Alors pour ceux qui, comme moi, auraient séché leur cours d'histoire au lycée pour aller jouer au baby-foot, je vais vous faire un petit rappel sur la situation de l'époque. Donc en 1941, la France est occupée. Non, bon. En 1941, la France est occupée depuis un an par les nazis et la résistance s'organise petit à petit avec entre autres la création en octobre 41 du BCRA, donc le Bureau Central de Renseignement et d'Action Militaire. De son côté, le PCF, le Parti Communiste Français, qui a été déclaré hors-la-loi depuis 1939 par Édouard Daladier, se reconstitue de façon clandestine pour aboutir en 1941 à la naissance de ces FTP, donc, qui sont l'acronyme de Francs-Tireurs Partisans. Donc, ce sont des groupes de résistance armée contre l'occupant. Et à la même époque, les MOI, donc, qui sont main-d'œuvre émigrée, c'est des groupements syndicaux communistes qui regroupent des immigrés arméniens, polonais, hongrois, italiens et espagnols. Et donc ces MOI vont être intégrés au FTP. Donc après la rafle du Veldiv en juillet 42, au cours de laquelle la police française a arrêté plus de 13 000 individus, donc hommes, femmes et enfants, pour la plupart juifs, eh bien les FTP et MOI durcissent leurs actions et commettent une centaine d'attentats dans les 6 premiers mois de 1943, rien que pour les groupes parisiens. Mais bon, la police française collabore étroitement avec la Gestapo par le biais des brigades spéciales qui traquent sans relâche les membres de la résistance. Et après deux coups de filet en mars et en juillet, eh bien, la totalité du réseau est démantelée à la mi-novembre 1943. Et 68 résistants sont arrêtés, dont Missak Manouchian et Joseph Epstein, les chefs des FTP-MOI. Alors avec l'armée du crime, Guédiguian a voulu faire de son film un véritable objet de mémoire et de légende à la gloire de ces hommes, pour la plupart étrangers, qui ont fait de la résistance à l'occupant leur credo et leur raison de vivre et de mourir. Donc le film se veut une reconstitution romancée des années pendant lesquelles Missak Manouchian était à la tête de cette armée de l'ombre. Et donc reconstituer dans les moindres détails le Paris de 1940 et ses environs bénéficie avec le film de Guédiguian d'une direction artistique soignée, hein, de la lumière au décor et au costume, tout est particulièrement léché. Il y a peut-être que la musique d'Alexandre Desplat qui témoigne d'un manque de goût assez flagrant quand elle vient souligner et suggérer à l'américaine des sentiments que les images auraient pu faire jaillir d'elles-mêmes. Donc les comédiens choisis par le réalisateur sont eux aussi très bons. Simon Apkarian campe un Manouchian charismatique, immédiatement attachant. Pendant que Robinson Stévenin, Grégoire le Prince Ringuet interprètent avec vigueur deux très jeunes résistants aux fêlures évidentes. Donc Jean-Pierre Daroussin et Adrien Jolivet assurent aussi leur rôle respectif avec conviction. Et même Virginie Ledoyen, qui ne m'avait pas particulièrement convaincu dans ses films précédents, incarne une Mélinée Manouchian, donc la femme de Missak Manouchian. Eh bien, l'incarne de façon touchante et juste. Mais malgré d'indéniables qualités, le film de Guédiguian souffre, en plus de sa musique un peu trop didactique, de choix scénaristiques discutables. Déjà, les personnages sont traités de façon un peu trop univoque. Les résistants apparaissent comme des héros que la torture et la peur de la mort ne peuvent pas faire fléchir. Chaque membre du réseau Manouchian est traité comme une icône. Leurs motivations sont passées complètement sous silence pour certains et les autres voient leurs actes justifiés par de grosses ficelles de scénario. Et face à eux, les membres de l'autorité allemande et de la police française sont présentés eux aussi sans nuance comme des prédateurs sadiques ou veules, à l'exception d'un personnage de flic campé par Gérard Meilland qui montre un petit peu le côté la police qui collabore mais qui fait ce qu'elle peut pour ne pas trop faire payer les Français. Mais bon, c'est un tout petit rôle, et dans l'ensemble, le principal reproche qu'on peut faire à Guédiguian, c'est l'aspect un peu trop scolaire de son film. Donc sa reconstitution d'une période troublée de l'histoire de la France est un peu trop limpide pour toucher ou faire vraiment réfléchir sur la période concernée. Le scénario pose d'emblée un regard consensuel sur la résistance, et le spectateur qui est gagné d'office à la cause des personnages n'a donc plus qu'à suivre ce biopic multiple qui ne fait finalement qu'effleurer les sujets qu'il aborde. Donc si Guédiguian ne nous épargne pas au détour de quelques scènes un regard lucide sur la violence et sur l'ambiguïté du terrorisme, on sent quand même que cette dénonciation rapide de la violence comme réponse à la violence est presque un passage obligé et que c'est un certain respect des codes narratifs qui transparaissent plus qu'un véritable questionnement sur les motivations et les actes de ces personnages. Alors bien sûr, Guédiguian n'a pas voulu faire ici un film sur la France occupée, mais plutôt un film avec pour décor la France occupée. On peut d'ailleurs faire un rapprochement ici avec le film de Quentin Tarantino, sorti un mois avant celui de Guédiguian, dont on avait abondamment parlé dans cette émission. Et bon, comme son confrère français, le réalisateur de Reservoir Dogs a voulu faire un film sur la résistance à l'occupation nazie, mais là où le film de Tarantino s'avère autrement plus original et plus marquant, c'est qu'il s'affranchit complètement de ce regard consensuel qui est si souvent porté par le cinéma sur cette période. Donc Tarantino joue avec les codes de plusieurs genres cinématographiques d'exploitation et il est parvenu à réaliser un film distrayant qui porte un regard assez neuf et fantaisiste sur la résistance. Donc l'armée du crime, par sa volonté de reconstitution et son sérieux, peut plus facilement se rapprocher du dernier film en date de Bryan Singer, Valkyrie, qui lui aussi mettait en scène la résistance au régime nazi, donc résistance allemande cette fois. Mais bon, si Valkyrie nous narrait l'une des tentatives d'attentat contre Hitler les plus mémorables de la Seconde Guerre mondiale, eh bien ça lui permet d'afficher, grâce à ça, une ambition certaine. Mais bon, comme le nouveau film de Guédiguian, Valkyrie pêchait un petit peu par son manque de nuances dans l'approche des personnages et du développement de son histoire. Donc au final, L'Armée du Crime, ça reste un bon film historique hein, qui a le mérite de retracer un pan de l'histoire française que peu de gens connaissent et d'afficher une direction esthétique et une distribution des rôles quasiment sans défaut. Et malheureusement, sa durée, son approche un peu simpliste des événements et des personnages en font un film qui ne touche pas vraiment. Donc malgré cet attachement à décrire la vie quotidienne des membres du groupe Manouchian, le film n'arrive que rarement à émouvoir et à impliquer le spectateur.
Et t'as pas été touché alors du coup, Martin ?
En fait, on reste un peu à l'extérieur du film. Il y a cette vision de la résistance, de ces héros, de la résistance, qui est un peu scolaire en fait, un peu classique. Et bon, ça nous empêche d'adhérer complètement, malgré les qualités d'interprétation, ça nous empêche d'adhérer complètement à l'histoire. Et puis il y a cette durée aussi qui fait que on suit longtemps les personnages et à certains moments, on décroche parce que le film est à un rythme assez lent. C'est vrai qu'il est ponctué par plusieurs attentats en fait, mais ça ne suffit pas à nous tenir vraiment éveillés. Malgré ça, le film reste intéressant à regarder. Il y a certaines scènes qui visent très juste, comme cette séquence d'attentat à la grenade qui est avortée, On voit justement quelques membres du groupe Manouchian qui doivent commettre un attentat à la grenade dans un bordel, et un premier y va pour lancer sa grenade, et puis il revient, non, c'est pas possible, j'y arrive pas. Puis un deuxième dit, bon, ben, je m'en occupe, il dégoupille la grenade, il y va, et finalement il ressort, il l'a pas réussi non plus, et donc il cherche pendant une bonne heure la goupille de la grenade. Donc cette scène-là pose un regard justement assez drôle, assez sensible sur cette armée de jeunes gars qui ont troqué leur innocence pour la violence des armes. Et bon, c'est peut-être la seule scène du film qui jette un petit peu un regard particulier. Le reste du film, c'est plus consensuel. Mais bon, ça reste un film, à mon avis, intéressant à voir pour son esthétique et puis pour son sujet.
En tout cas, il est projeté au Gaumont, Multiplex, et puis Comédie, Omega CGR, et c'est tout, je crois, sur Montpellier. Voilà.
Non, non, il est aussi projeté au Diagonal Capital.
Ah, mes informations sont mauvaises. D'accord, bon. Mais un plus petit écran, je crois, c'est ça.
Moi, je l'ai vu sur un grand écran. Non, mais c'est... Oui, je pense qu'il est projeté un peu partout. Moi, je l'ai vu aussi pendant une séance scolaire. Il y avait des lycéens qui étaient venus voir le film, donc...
Des troublions, quoi.
Voilà, bon, il y a ce côté, séance un petit peu perturbée par la présence de ces jeunes qui sont passionnés par l'histoire du groupe Manouchian.
J'imagine.
Mais
c'est vrai qu'ils se renseignent régulièrement sur leur portable, d'ailleurs, choper
d'informations. Échanger, ou qu'il est beau, Simon Abkarian, tout ça. Ouais. Non, mais bon, ça montre que même si des profs choisissent d'emmener des élèves voir ce film, c'est qu'il y a un côté un petit peu consensuel, historique, mais scolaire. Qui permet de parler de ce sujet sans poser trop de polémiques, comme l'avait pu le faire Verhoeven avec The Black Book sur la résistance aussi, mais qui, bon, voilà, y allait de façon un peu plus viscérale, qui allait chercher les...
En même temps, le style Verhoeven et le style Guédiguian, c'est pas du tout le même, pouvait peut-être pas s'attendre à une forme...
C'est vrai qu'en partant du principe de faire un film sur des terroristes, parce que c'est comme ça que les appellent les Allemands. Nous, on aurait plutôt tendance à appeler ça des héros de la résistance. Mais ils sont des héros parce qu'ils ont pratiqué le terrorisme pendant cette période. Et ça aurait pu donner lieu à quelques réflexions un peu plus poussées, à mon avis, sur l'ambiguïté de cet engagement et de ces actes. Voilà.
Eh bien, merci Martin. On passe tout de suite donc à un film qui va sortir la semaine prochaine, le 30 septembre. C'est Je suis heureux que ma mère soit vivante, un film de Claude et Nathan Miller. Alors, Nathan Miller étant le fils de Claude Miller étant le réalisateur de La meilleure façon de marcher, de L'effronté ou encore Mortel randonnée, La petite Lily. Vous avez vu des films de Claude Miller ?
Quelques-uns, oui.
J'ai vu, c'est La classe de neige.
Et La classe de neige.
Ouais, moi, j'ai vu La classe de neige, ouais, que j'avais trouvé très bien.
Il y en a un très peu connu que j'ai vu, mais que j'aime beaucoup, avec Jean-Pierre Marielle, qui s'appelle Le sourire. Et qui m'avait beaucoup touché.
Et donc, La classe de neige, ça tombe bien parce que c'est un film qui était adapté d'un roman d'Emmanuel Carrière. Et là, cette fois-ci, c'est pas un roman qu'ils ont adapté, mais c'est un article qu'a écrit Emmanuel Carrière dans le Figaro, non pas dans le Figaro, dans le Nouvel Obs, si je me trompe pas, sur un fait divers, l'histoire d'un garçon qui recherche absolument sa mère biologique. Et c'est toute l'histoire donc de « Je suis heureux que ma mère soit vivante ». Alors, je vous parlerai du film sans doute la semaine prochaine un peu plus longuement parce qu'il sort la semaine prochaine. Là, ce qui va être peut-être intéressant, je l'espère en tout cas, c'est les propos de Claude Miller, surtout de Claude Miller, même si son fils aussi a participé au film et était présent à cette conférence de presse. Mais pour bien faire connaissance un peu avec le film et avec l'ambiance de ce film, on écoute la bande-annonce.
Elle était comment, ma mère ? Elle était belle ?
Mais j'en sais rien, moi. Elle a jamais voulu nous rencontrer.
Moi, je m'en souviens. Elle était super belle.
Bah alors, pourquoi tu demandes ?
Un jour, je viendrai vous chercher.
Oui.
Qu'est-ce que tu cherches ? Nous pourrir la vie ?
Tu vas t'arrêter, nom de Dieu ! Tu vas t'arrêter, ouais !
Je suis Thomas. Votre fils, Thomas.
Vous avez fait des enfants. C'est pas ça, une mère de famille. Vous y êtes moi ou pas ? Je peux même pas vous appeler maman. Rien qui se passe quand je vous dis maman.
Ça suffit, Thomas, arrête !
Merde et merde, t'entends ? Tue-toi de tes oignons, je te dis. Pourquoi vous regardez jamais quand on vous parle ? Je suis votre fils, vous me regardez.
Oui, je sais que t'es mon fils. Attention avec ta cigarette.
Pas très intéressant de vous connaître, hein, je vous jure.
Je sais que je te plais pas. Je dois pas être si mal que ça puisque t'es là.
Arrête là.
Bon, qu'est-ce que tu me veux ?
que je sais, c'est que je suis heureux que ma mère soit vivante.
Et bien voilà, il a donné le titre, hein, donc l'acteur que vous avez entendu, c'est Vincent Rottier, qui est pas très connu, enfin, voire pas du tout, et puis il y a aussi Sophie Catani, qu'on a entendu, qui joue sa mère. Voilà, bah, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris des acteurs qui sont absolument pas connus, et donc ça fait un film plutôt intimiste. Alors on écoute justement ce que dit, là c'est Nathan Miller qu'on va écouter, avant d'entendre Claude Miller donc parler des acteurs.
Premier jour, première prise, c'est ce que vous avez sur le film, immédiatement, sans aucune demande, modification, inclinaison de ma part sur le plateau. Donc après vous êtes scié et puis vous dites bon alors le deuxième plan ça va être pareil, c'est pareil. Et puis le troisième et c'est tous les jours comme ça. Donc c'est il y a aucune direction de ma part concernant Vincent sur le film. On s'est peut-être parlé 20 fois, on a échangé 20 mots, marche un peu plus vite, ou ralenti pour les histoires techniques uniquement. Mais parce qu'il, voilà, il c'est pas, mais moi je crois pas du tout à ce truc d'instinctif, c'est pas ça, hein. C'est qu'il bosse, lui, tout seul, sauf que ce qu'il fabrique, lui, c'est sublime, à l'intérieur. Mais il arrive le matin, d'abord, je veux pas cracher dans la soupe, mais il connaît son texte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et il a lu le scénario, mais lu au sens de, entre les lignes, quoi, avec une compréhension affective des choses, très 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 forte. Et il se fait une musique que je ne connais pas, et la musique est plus belle que celle que vous pourriez jamais demander. Donc c'est... Non, ça ne se dirige pas du tout à Vincent. C'est vous asseyez, puis vous regardez, puis vous êtes tellement content de bénissez le ciel d'avoir... eu la chance de l'avoir. C'est le choix surtout.
Oui, c'est le choix qui est important. Moi, j'ai connu ça il y a 20 ans avec Charlotte Gainsbourg. Elle disait pas grand-chose en interview. c'est pas grave. Et par contre, c'était première prise. Voilà. Même pendant les répétitions, il fallait l'arrêter parce qu'elle jouait déjà. Elle faisait pas la différence entre les répétitions et les... Et les prises, mais
un peu comme Vincent aussi.
Vincent, oui, même tu t'économises pas tellement, Vincent, répète, il faut pas répéter trop.
Il joue dans les contre-champs quand il n'est pas dedans, c'est pareil. Donc, vaut mieux commencer par lui, parce que sinon il s'épuise. Dans les contre-champs, vaut mieux commencer sur Vincent. Parce que
il joue tout le temps, enfin je veux dire, il est dans le personnage tout le temps. Pardon.
Donc vous tournez à deux caméras, comme souvent, ouais. Cette méthode à vous,
ouais.
Et
ouais.
Vous faites pas beaucoup de prises, c'est ça qu'on...
Ah, très peu.
Très peu.
Enfin, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'était Vincent, deux, parce que c'est une vieille école de cinéma, alors qu'on était en numérique, on la doublait pour les réflexes idiots de pellicules qu'on n'avait pas à voir. Et puis c'était en même temps, des fois par perversité, parce que c'était tellement bien, on avait envie de voir encore autre chose, mais c'était pareil.
Oui, puis il n'est pas toujours seul dans le champ.
Oui. Et puis il y avait pour les problèmes techniques des fois. Mais en ce qui concerne le jeu, c'est vraiment pas une blague, c'était toujours la première.
Oui.
ça devenait presque un gag. Avec l'équipe, on se regardait, c'était bon.
Voilà, donc c'était Nathan Miller et Claude Miller, son père. Donc c'était Nathan Miller, en fait, qui était à la caméra, et puis Claude Miller qui supervisait un peu tout le film. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ils tiennent vraiment à revendiquer le film tous les deux. Donc, on va parler maintenant du son hors champ, parce que c'est un film avec beaucoup de mise en scène. Notamment, il y a des flashbacks où là, il n'y a que des plans fixes. Tout ce qui se rapporte à l'enfance de Thomas, donc, qui recherche sa mère, eh bien, ce sont des plans fixes avec une lumière un peu chaude. Et il y a aussi d'autres petits effets de mise en scène, notamment qui concernent le son hors champ. Il y a des personnages qui sont hors champ et on a l'explication de Claude Miller. Pourquoi ils sont
hors champ ? Dans les procès, bon, on a toujours, boum, contre-champ, le juge, les... Et on voulait que ça ressemble pas trop à un téléfilm.
Non, mais c'est les...
Vous voyez, on a dit, mais pourquoi on montre ça ? On s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est lui et la mère. Et on montre qu'eux, et le reste, c'est... Voilà, on a choisi ça, et je trouve que moi, j'aime bien ça. Et pareil, dans l'entretien avec la dame, On aurait eu des contre-champs, et ça y est, on était dans une espèce de, d'habitude. Alors que ce qui nous intéresse, c'est le visage de cette mère.
Puis ça venait aussi, moi je pense que ça venait aussi, là pour l'histoire de cette séquence-là, des essais. Justement, les fameux essais avec Catani.
Oui, qui avait cette force.
Claude était off, que moi j'avais filmé. Et c'était formidable parce qu'il y avait qu'elle. Et c'était elle, en gros plan, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
C'est ce qu'avait fait Truffaut quand il... Les essais de Jean-Pierre Léaud dans les 400 coups.
Ils sont passés...
Qu'il a après mis dans le film,
oui,
en mettant une voix off fausse de quelqu'un qui l'interviewe.
C'était
le même principe. Quel intérêt de filmer la personne qui... Voilà.
C'est bien plus fort.
Oui,
le seul intérêt, c'est si ça doit être un personnage du film.
Exactement. Mais si ça ne l'est pas, c'est notre personnage qui nous intéresse.
Voilà, donc, ils se sont justifiés. Hein, quel intérêt de montrer effectivement un personnage qui n'a qu'une fonction, c'est donner sa réplique. On continue cette fois-ci avec le numérique, il en a été question. Hein, ils ont donc tourné tout ça en numérique. Claude Miller en avait l'habitude. Nathan Miller, lui, aime pas trop ça, il préfère la pellicule. Et bien, on écoute surtout l'argumentation de Claude Miller.
Comment on raconte les histoires et l'esthétique du cinéma? Ce qui peut avoir changé, c'est les toutes petites caméras. Numérique. C'est-à-dire que je l'ai fait une fois, et c'était la première fois, avec un film pour Arte qui s'appelait La Chambre des Magiciennes,
oui, oui,
qui était avec des toutes petites mini-DV. Et ça, c'est vrai que je trouve que ça change l'écriture. Parce qu'à cause de la mobilité de la chose, du fait qu'on peut la poser n'importe où, que... Voilà. Alors ça vous donne une esthétique différente. Les caméras numériques, celles que j'utilise dans La Petite Lily, Un Secret, et puis là... Pour moi, c'est des caméras comme des caméras pellicule. Je veux dire, sur le plan de...
Physiquement,
c'est pareil. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je tourne en numérique depuis La Petite Lily, enfin, c'est que j'ai la sensation, tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus, que je travaille plus mon métier de metteur en scène dans la journée que quand c'était en pellicule. C'est-à-dire que en pellicule, j'avais l'impression que, à cause de la préparation plus technique, plus l'éclairage, les machins, les trucs, que je travaillais, allez, on va dire, 4 heures par jour, si je devais en travailler 8. Alors qu'en numérique, j'ai la sensation que je vais plus vite. J'ai la sensation que, évidemment, comme il n'y a pas à recharger la caméra de pellicule, on est beaucoup plus, je suis beaucoup plus près des acteurs et on ne s'arrête pas. Et j'ai une plus grande autonomie. Enfin, je m'y sens vraiment très très bien, et comme aussi bien pour Lily que pour Un Secret, que pour ce film-là, moi je trouve qu'à l'arrivée, le public lui voit que du feu. Si on lui dit c'est en numérique, c'est en pellicule, il ne le voit pas. Bon, La Petite Lily, ça a même été un étalon pour vendre du numérique en disant regardez ce qu'on peut faire.
Une belle palette. Hein.
Ouais. Ça, j'ai un chef opérateur, Gérard de Battista, qui n'était pas celui de Je suis heureux, qui est un grand spécialiste, enfin, il connaît la pellicule aussi, hein, il a quasiment mon âge, il est de la génération pellicule, mais c'est un grand spécialiste du numérique, et il arrive à des résultats. Voilà. Non, mais moi, c'est plutôt pratique, c'est pas tellement un choix esthétique, c'est que je trouve ça plus pratique. Plus léger techniquement.
Voilà, donc c'était Claude Miller qui parlait du numérique. À noter que pour une production cinématographique, le numérique enlève 20% du budget par rapport à un film pellicule. Et c'est vrai que lors de cette conférence de presse, chacun exposait un peu ses arguments pour savoir si on voyait une différence entre le numérique et puis l'argentique. Nathan Miller expliquait quand même qu'avec du 35 mm, on voyait une belle différence.
Il y a un grain, quoi, qui est quand même bien...
Il y a un grain,
bien,
paraît-il. Voilà.
Oui, si, ça se voit.
On voit des choses.
L'image DV est quand même plus lisse, plus fade, un peu plus, je sais pas...
Terne. Un peu plus terne, ouais.
Mais après, avec les filtres qu'ils ont pour le transcoder sur pellicule, probablement qu'on peut se faire gruger. C'est ce qu'expliquait Nathan Miller, notamment, parce que... Il était allé voir une projection du film d'Alain Gomis, je ne sais plus comment il s'appelle ce film, et il s'est dit, oh là, c'est merveilleux, ça fait du bien de voir un film en péloche.
Pas de bol, c'était
du numérique. Voilà. Donc il s'est dit finalement après, est-ce que je vais continuer à faire ça ? Voilà, donc eh bien, vous pourrez entendre eh bien, d'autres extraits de cette conférence de presse la semaine prochaine où je ferai une petite chronique sur Je suis heureux que ma mère soit vivante, un film vraiment très très bon de Claude et Nathan Miller, voilà, qui était en avant-première lundi mais qui ne sortira que mercredi prochain. C'est à toi Thierry maintenant avec cette fois-ci un retour.
Je pense qu'on va faire un petit flashback dans le sens où on va sortir de l'actu ciné et ouvrir une petite rubrique rétro. Alors bien qu'on puisse y voir un rapport avec un autre type d'actualité puisque nous fêtons le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin.
Moi j'ai bu du champagne hier, je pense que tout le monde l'a fait.
Je suis allé danser. Donc voilà. Alors, on va évoquer le film The Wall d'Alan Parker, sorti en 1982.
Et ça nous rajeunit pas, ça.
Non, pas du tout. Mais une œuvre qui a aussi bien vieilli, il n'y en a pas beaucoup. Alors, passons rapidement sur le synopsis de ce film difficilement racontable. Pink, rockstar de son état, rockstar britannique, en tournée aux États-Unis, est enfermé dans sa chambre d'hôtel dévastée et surtout dans un état de prostration mutique. Tandis que la foule venue assister à son concert trépigne d'impatience, puis défonce les portes de la salle où celui-ci doit avoir lieu. S'ajoutent en parallèle des images de la Deuxième Guerre mondiale où des soldats courent affolés en tentant d'échapper à un pilonnage intense. Et c'est ainsi que nous entrons dans les méandres de l'esprit torturé de Pink et que l'on peut reconstituer tel un puzzle les différents éléments de sa vie présentés par association d'idées dans un désordre chronologique foisonnant porté par la musique de l'album The Wall du groupe Pink Floyd. Ces événements, quels sont-ils ? On a entre autres la mort du père de Pink à la bataille d'Anzio en 1944, son enfance avec une mère ressentie comme trop protectrice et étouffante, les brimades infligées par des professeurs frustrés et imbéciles, l'échec de son mariage à cause d'un repli sur soi qui confine à l'autisme, la fuite dans les plaisirs faciles que permettent la vie de rockstar, adulation de la foule, sexe sans âme, drogue, etc., etc. Tout cela amène Pink à construire, brique par brique, un mur de protection dans son esprit, mur qui le mène à la folie. Alors, bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce film, tant la matière en est riche. D'abord sur le scénario de Roger Waters, le leader de Pink Floyd et le principal auteur-compositeur de l'album Concept du même nom, sorti en 1979. Album faisant partie d'un projet plus vaste, dont le second volet est constitué d'une série de concerts théâtraux comportant de nombreux effets spéciaux. Et enfin, le long métrage lui-même. Le projet traite du thème de l'isolement à partir d'éléments autobiographiques de Waters. Alors certains pourraient dire que le film sombre dans un narcissisme pleurnichard, ce dont ne se prive pas David Gilmour, ultérieurement. Le guitariste du groupe a en effet déclaré « Je n'adhère pas totalement au concept de The Wall. Selon moi, c'est un véritable catalogue de plaintes et je ne veux faire des reproches à propos de ma vie qu'à moi-même. » Certes, mais qu'il nous soit permis de ne pas partager cet avis. Car comme disait Oscar Wilde, tout est pardonnable, sauf l'absence de talent. Or, de talent, voire de génie, Pink Floyd, The Wall, en regorge. D'abord celui de Roger Waters, qui avait effectivement quasiment monopolisé l'écriture et la composition des chansons de l'album en écartant Gilmour. Ceci expliquant sans doute sa petite réaction négative de tout à l'heure. Pour en faire déjà un quasi-scénario et souffrir ainsi une psychanalyse de luxe. Mais l'unité du groupe ne survivra pas aux tensions provoquées par la mégalomanie de Waters. Et lorsque l'on constate le résultat de cette mégalomanie, il est difficile de se dire qu'il n'a pas eu raison. Parce que l'album constitue une bande sonore géniale servant de fil conducteur au sein de l'apparente déstructuration de la narration. Ce qui permet également à l'œuvre d'échapper à un nombrilisme stérile est le lien qui est systématiquement fait entre l'aliénation individuelle du protagoniste et l'aliénation collective, magistralement illustrée par la séquence des élèves formatés dans une gigantesque usine, les transformant en viande hachée, ou par celle également où la foule des fans présents au concert est explicitement comparée à celle qui porte les dictatures fascistes au pouvoir. Par celle encore, en image d'animation, celle-là, où l'on voit le fameux mur composé d'une multitude d'objets de consommation à la place des briques. Alors, petit quiz, comment ne pas penser à cette phrase, et qui l'a dite d'ailleurs, Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images.
C'est Debord, ça ?
Oui, c'est Debord dans la société du spectacle. Et le film constitue, je pense, une bonne illustration de ce concept. Alors cela nous amène au second artisan de la réussite de The Wall, l'illustrateur et caricaturiste Gérald Scarf. Gérald Scarf avait déjà travaillé sur le précédent projet, sur le précédent album donc de Pink Floyd, Wish You Were Here. Il était responsable des animations et de beaucoup du packaging visuel des concerts. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment des concerts, puisque à l'époque Pink Floyd s'était lancé dans des projets pharaonesques,
des shows,
voilà, de véritables shows opéra rock où les effets spéciaux jouaient un grand rôle. Et Gérald Scarf avait déjà été responsable de ces effets spéciaux et de l'habillage esthétique. Donc Gérald Scarf qui supervise les séquences d'animation du film, mettant en scène les fantasmes de Pink dans un style à la fois grotesque et élégant, ainsi qu'une sombre vision de l'humanité et de son destin, et dont on peut dire que les images marquent la rétine et le cerveau au fer rouge.
C'est vrai.
Il y avait une vision de la femme aussi, je me souviens, dans ces animations qui n'étaient pas... Au début, je pensais à de la misogynie. Après, je pense que c'était pas de la misogynie. Hein, mais
c'est vrai que ce sentiment-là arrive quand même à l'esprit. Ouais.
Disons qu'on peut dire que c'est une certaine misogynie du personnage qui est mise en scène.
On en parlera une autre fois.
Oui, voilà,
je t'en prie, continue.
Il faut enfin saluer le travail d'Alan Parker, dont c'est le quatrième film après Bugsy Malone, Midnight Express et Fame. Son savoir-faire permet au film de rester lisible et fluide, ce qui n'était pas une mince affaire, étant donné le côté désordonné et foisonnant du script. Bugsy Malone et Fame étaient aussi, déjà, des films musicaux, genre auquel il se sera de nouveau avec The Commitments et Evita. Mais à la différence de ces derniers, The Wall ressemble plus à un clip format long-métrage qu'à une comédie musicale. Mais il s'agit de beaucoup plus qu'un clip. Il s'agit bien d'une expérience, qui se réfère aussi bien à Freud qu'à Orwell ou Kafka. Donc, si par hasard, vous avez la chance de ne pas encore l'avoir vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous avez eu la chance de l'avoir vu, vous pouvez le revoir sans problème, tant la matière est riche et inépuisable, et que vous pouvez toujours trouver des éléments que vous n'aviez pas remarqués lors de votre première vision.
Effectivement, on peut le regarder notamment en DVD. Et puis après, si on écoute la bande-son, on retrouve aussi les images. C'est ce qu'il y a de pratique avec ce film The Wall. Hein. Et effectivement, on peut dire aussi que la participation de Waters fait énormément, comme tu l'as dit. Et qu'on est bien heureux d'ailleurs que Pink Floyd... je suis plutôt malheureux. Voilà, c'est ce que je voulais dire, que Pink Floyd ait conservé Gilmour par rapport à Waters. Voilà. Mais l'histoire des
c'est
Pink Floyd...
C'est plutôt Waters qui est parti. Mais bon,
voilà, mais c'est des histoires où les gens sont partis. Il y a eu Cinemators au tout début aussi.
Sid Barrett. Qui a été expulsé du groupe en 68 pour abus de drogue.
Pour aller dans un asile. Ouais. Voilà. Grande histoire, Pink Floyd. Is there anybody out there? Out there, is there anybody out there? Thank you. un morceau à jouer donc à la guitare en arpège. Hein. Ce morceau donc tiré de la bande originale The Wall de Pink Floyd, bande originale préparée par Roger Waters. Merci Thierry pour cette chronique et on passe à District 9.
On va passer à District 9 effectivement et puis on va d'abord parfaire notre culture musicale en réécoutant ce fameux tube récompensé, il me semble, à l'Eurovision 2000 et des brouettes. Voilà, c'est très vague. On y va. Voilà, donc, ouais, sinon, c'est un super générique, hein, on en parlait hors antenne.
On va parler football.
On va parler football, finalement, parce voilà. Que le cinéma, on en a marre.
Voilà, les coupes européennes aussi, n'oubliez pas après, le jeu de TF1 et ainsi de suite. C'est parti.
Donc, ouais, District 9, alors District 9, eh bien, c'est une histoire faisant coexister des aliens, donc les crevettes, sorte de sauterelles géantes, et puis donc les humains dans un présent possible. Alors, procédé assez génial, District 9 ne s'implante pas dans un présent fantasmé où se déroulerait l'énième invasion d'une énième race extraterrestre belliqueuse et ultra équipée, façon la guerre des mondes ou Independence Day. Dans District 9, mais pourquoi je parle de District 9 ? C'est District 9, excusez-moi. Cela fait une trentaine d'années, donc à peu près depuis donc 1982, qu'un énorme vaisseau spatial s'est immobilisé au-dessus de la plus grande ville de l'Afrique du Sud, donc Johannesburg, déversant ses occupants à échasses et antennes sur les faubourgs de la ville. Mais contrairement à ce que la science-fiction adaptée au cinéma a l'habitude de nous asséner, les crevettes apparaissent comme des réfugiés relativement pacifiques. Seul bémol, leur gloutonnerie insatiable, vite perçue comme, comme handicap, qui mena donc l'humanité à les parquer dans le District 9, pendant que les nations du monde se querellaient pour savoir quoi en faire. Alors depuis, la gestion de la situation a été donc transférée au MNU, Multinational United, une société donc privée qui se contrefout complètement hein, du sort de ces créatures, mais qui fera par contre d'énormes bénéfices si elle arrive à faire fonctionner leur extraordinaire armement qui fonctionne par reconnaissance d'ADN. Donc la tension entre extraterrestres et humains va progressivement monter pour atteindre donc son paroxysme lorsque le MNU commence à évacuer les non-humains du District 9 vers un nouveau camp en envoyant donc des agents de terrain s'occuper de leur transfert. Donc ce qui va nous donner l'occasion de rencontrer Vicus. Donc c'est Vicus van der Merve. Merve, voilà. Donc Vicus, c'est un type plutôt comment est-ce qu'on l'a qualifié ce type
de pied nickelé.
Voilà, pied nickelé, bon, ce
petit bureaucrate complètement maladroit et pétri de bonnes intentions, insupportable de bonne conscience.
Ouais, c'est voilà, il est assez repoussant finalement comme individu. En fait, on va le voir donc contracter donc accidentellement un virus extraterrestre qui va progressivement modifier son ADN et induire une métamorphose donc progressive. Alors Vicus est donc à présent par le biais de cette transformation et de la contraction de ce virus, c'est l'homme le plus recherché de la planète et notamment donc par le MNU. Voilà, donc Vicus est la clé au final donc qui permettra de percer le secret de la technologie alien. Repoussé, isolé, sans aide ni ami, ne lui reste donc qu'un seul endroit où se cacher, où se terrer, c'est le District 9. Voilà, donc ça c'est pour le résumé, le synopsis, pour vous donner donc un avant-goût donc de ce film. Là, je pense que Martin va nous proposer un petit rappel sur qui est Neil Blomkamp.
Rapidement, oui, un petit historique du projet. District 9 est né de la collaboration entre Neil Blomkamp et Peter Jackson, qui s'était mis à travailler sur le projet d'adaptation de Halo, donc Halo qui est un jeu vidéo Microsoft qui avait été acheté par la Fox ou par Universal, je ne sais plus. Et Neil Blomkamp et Peter Jackson avaient commencé à travailler intensément sur ce projet pendant presque un an. Mais bon, suite à un désaccord entre les deux majors chargés de la production, donc Fox et Universal, le projet est abandonné. Donc il reste de ce grand projet qu'une série de courts-métrages que Neil Blomkamp avait réalisé avant même la mise en chantier de l'adaptation d'Halo, sur le jeu vidéo, des sortes de clips promotionnels. Donc il y avait trois petits clips qui reprenaient l'univers du jeu en live. Voilà, qu'on peut trouver sur Internet. Sinon, Neil Blomkamp, on peut situer, c'est surtout un réalisateur de clips, de publicité. Il a à son actif trois ou quatre courts-métrages, dont Tembot, qu'il a tourné en 2006 et qui raconte un petit peu la vie dans un bureau, si les robots étaient intégrés à nous. Voilà, un truc assez surréaliste avec ce personnage qui est complètement intégré, mais qui est un robot. Et aussi, bien sûr, Alive in Joburg, donc, qui étaient les prémices de District 9, où, bien, sous une forme très courte, il posait les bases de l'univers qu'il développa après sur un long métrage.
Une forme de première ébauche, ouais. Ouais.
Voilà, donc je sais pas, on peut faire un rapide tour de table sur vos avis à propos du film.
Ouais. Moi, je dirais que c'est un bon suspense autour du personnage principal, qui, comme on l'a dit déjà, sous ses airs un peu niais, quoi, arrive à tromper son monde et il détourne les plans échafaudés par les espèces de méchants trafiquants d'armes. Voilà.
Ouais, moi, pour ma part, ce film, moi, j'ai bien aimé le traitement de la science-fiction qui est complètement en fait original, qui va donc présenter les personnages humains sous un jour un petit peu pluvieux, on va dire. C'est bon, là, on a une nature humaine qui est quand même relativement pessimiste, négative. Et d'un autre côté, c'est aussi la manière dont les aliens sont présentés. Donc on a l'habitude de voir des aliens donc belliqueux, vraiment méchants. Là, pour le coup, ils vont incarner plutôt une population beaucoup plus passive. Et voilà, c'est en fait le travail fait sur ces deux éléments, moi, qui m'a vraiment le plus, à la base, intéressé. Bon, après, il y a tout un travail dont on va développer tout à l'heure le propos, qui lui aussi justifie le film et son visionnage, quoi. Mais voilà, c'était ça.
Alors, je trouve que ce film est une bonne surprise, car il combine habilement le conte humaniste, la satire politique et sociale, et le divertissement spectaculaire. Enfin, quand je dis bonne surprise, il faut dire aussi que le film a été préparé par un habile marketing viral sur Internet, avec faux blog, site Internet de la compagnie, MNU, etc., etc.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il a bénéficié d'un teaser. C'est vrai que le marketing était particulièrement, le teasing, comme on dit, était particulièrement bien fait, avec un teaser très accrocheur, comme on avait eu droit d'ailleurs pour d'autres films de SF, genre Cloverfield récemment. Et également, comme tu dis, sur des sites internet, le site de la MNU qu'on peut trouver très rapidement sur Google, et ce site de blog de défense des droits aliens.
Donc, comme si ça existait vraiment, quoi.
Voilà. C'est ouais. Et donc il y a eu quand même ce buzz un peu autour du film. C'est une des raisons qui a fait que Blomkamp et Peter Jackson ont rentabilisé leur budget de 30 millions de dollars en un week-end.
Ouais.
Donc ce qui est quand même assez impressionnant. Peut-être pour lancer le débat, moi, j'aimerais parler un petit peu de la forme du film.
Allons-y.
Voilà. Donc, en fait, le film, on peut le scinder en deux grosses parties principales. Il y a une première partie qui est tournée de façon reportage, comme un docu-fiction, où on va nous présenter ce monde de science-fiction au travers de reportages télé, au travers de magnétos de personnes qui sont interviewées pour expliquer un peu l'histoire. Mais on est plongé là-dedans comme si on assistait à un documentaire Arte sur la situation actuelle à Johannesburg. C'est la forme qui avait été utilisée sur Live in Joburg, le court-métrage. Et donc il y a cette mise en scène reportage qui nous plonge dans le prétexte de science-fiction sans passer par une sorte de mise en place d'un réalisme cinématographique habituel. D'habitude, les codes hollywoodiens, ça nous plonge au cœur de l'action avec identification imposée à un personnage, et un personnage qui va s'étoffer au fur et à mesure de l'histoire. Et donc ici, la caution réaliste en fait de ce prétexte de science-fiction est donné par l'utilisation des codes du documentaire, alors que habituellement on aurait mis en place un univers petit à petit, progressivement, un univers réaliste, et qu'ensuite on aurait fait intervenir l'élément de science-fiction prétexte. Là, c'est l'inverse, et on nous plonge directement dedans. Donc il y a une certaine distance qui est imposée dès le début avec l'utilisation de ces procédés de docu-fiction. Une des choses qui sont les plus remarquables, c'est que les aliens, on les voit quasiment au premier plan. Alors que dans un film classique, on attend... voilà,
ils sont intégrés directement au quotidien.
Voilà. Ouais, c'est, il n'y a pas ce jeu sur le suspense comme il pouvait y avoir dans Alien ou dans La Mutante ou comme enfin des films qui mettent ou même dans Independence Day où on attend très longtemps avant de voir
les aperçoit aliens. À peine,
là on les voit d'entrée. Ouais. Donc il y a ça, il y a ce choix esthétique donc qui permet une utilisation de plusieurs imageries différentes. Hein. On peut penser à des films comme Redacted de Brian De Palma, Rec ou Cloverfield donc pour la caméra
Diary
subjective.
Of the Dead aussi,
ouais, de Romero, le dernier film de Romero. Ouais. Voilà, il y a cette vision subjective du reportage avec des adresses directes au caméraman. Le caméraman est un personnage du film. Il y a cette interaction entre l'univers du film et ce qui est vu à l'écran. Donc la caméra est plusieurs fois poussée, non, arrête de filmer, etc. Il y a plusieurs autres points de vue comme ça qui vont... petit à petit amener le film vers quelque chose de plus classique. En fait, il y a un élément perturbateur, donc cette contamination de Vicus, qui va faire dérailler un petit peu cette machine de docu-fiction. Et après un petit passage rapide sur quelque chose de beaucoup plus objectif, où il passe dans les laboratoires de la MNU, donc c'est des caméras de vidéosurveillance ou des caméras de laboratoire qui filment un peu... ce qui se passe.
Il triche un peu d'ailleurs lors de cette séquence, puisque on va voir voilà des images par contre de caméras de base quoi.
Il y a déjà déjà cette mise en place d'une mise en scène beaucoup plus classique
ouais.
Et très rapidement en fait le film bascule et là on tombe dans une mise en scène classique de cinéma avec une caméra omnisciente qui suit l'action partout où elle est, qui va très rapidement passer d'un endroit à un autre, qui peut filmer de haut, filmer de très près.
Enchaîner des gros plans, voilà. Après des plans plus subjectifs, oui, mais voilà, qui sont objectifs quand même, du coup.
Donc il y a cette forme qui, à mon avis, un des points forts de District 9, et qui joue sans arrêt, enfin qui joue au fur et à mesure du film, sur l'objectivité du départ, qui permet cette plongée dans le monde de science-fiction très rapidement, et une subjectivité, ou je ne sais pas comment l'appeler, de cinéma classique, avec une caméra omnisciente, voilà, qui est mise en scène, qui est propre au cinéma de fiction.
Et d'ailleurs, pour ajouter à te dire, Martin, sur la forme, en fait, il faut souligner aussi l'utilisation des effets spéciaux qui a été fait en partie par Weta Workshop, qui est une filiale en fait de Game Workshop, qui est donc une entreprise en fait qui travaille sur les jeux de plateau avec les petites figurines et tout ça. C'est
un caractère justement de science-fiction, quoi.
Science-fiction, ouais, voilà, sur la SF,
avec
beaucoup
toute
sur
une
la
mythologie
SF.
Derrière, ouais. Des races,
des races différentes, des races d'aliens en fait. Donc Weta Workshop qui a travaillé aussi sur le Seigneur des Anneaux en fait, qui conceptualisé la plupart des maquettes en résine,
les costumes,
les armes, tout ça, ouais. Ouais, voilà. Et qui ont donc un petit peu aidé aussi. On va dire au design global du film, quoi, notamment sur le vaisseau qui est au-dessus de la ville, qui fait penser forcément à Independence Day.
Ouais, l'armement aussi, d'une manière générale, l'armement utilisé, c'est surtout aussi, ouais, des aliens.
Ouais, ouais. Ouais.
Et après, oui, par rapport à la mise en scène et les effets spéciaux, voilà, il y a vraiment des combats spectaculaires qui sont...
Ouais, qui sont justement dans la deuxième partie, dans ce côté beaucoup plus réaliste, enfin pas réaliste, mais plus classique en fait...
Donc ça charcute pas mal, notamment aussi le fameux... ça, tu l'aimes bien, Martin, ce truc-là. Qui,
le cochon Oui, il y a un plan avec un cochon, ne le ratez pas.
C'est à voir, ça, c'est à voir.
Non, mais il y a donc, rapidement, la forme, hein, c'est on part de ce procédé docu-fiction, et petit à petit, au cours du film, on évolue vers quelque chose de plus classique. Ça sert, on en reparlera plus tard, mais ça sert le fond, le message que veut faire passer Neil Blomkamp.
Et il y a aussi une utilisation magistrale de la ville de Johannesburg, de son caractère oppressant, de ses townships sinistres, qui vraiment rajoute au niveau de...
C'est ça, il y a véritablement quelque chose au niveau du contexte, quoi, qui est traité dans ce film et qui va le nourrir complètement, quoi. C'est exactement ce que tu dis.
Il faut avouer qu'il utilise pas mal la structure en fait d'une ville classique, on va dire, les nouvelles mégalopoles africaines notamment, qui sont développées très vite, un peu, on va dire, excusez-moi du terme, mais en bordel. C'est-à-dire avec un centre animé, le centre des affaires, où il y a après un développement autour de bidonvilles. Après beaucoup de bidonvilles, les quartiers riches beaucoup plus loin, l'extérieur sécurisé. Et là, avec ce film District 9, il nous plonge vraiment au cœur de ces bidonvilles. Donc on peut faire très vite une espèce de parallèle avec aussi les bidonvilles actuelles en fait, dans toutes ces grandes métropoles.
Ces villes qui deviennent de plus en plus ingérables.
Tout à fait,
et
ouais,
parfois ouais. Abandonnées justement à des sociétés privées, notamment des sociétés de protection, de sécurité. enfin, un futur immédiat qui est très très présent déjà, quelque part.
Mais c'est vrai que ce choix de tourner le film à Johannesburg plutôt qu'à Washington ou à New York, que, voilà,
il y a une petite référence. Voilà. Dès le début, il y a un petit coup d'épingle contre ça.
Voilà.
On aurait pu dire que l'OVNI arriverait au-dessus de Washington.
Ouais, ouais.
Mais ça, non.
Oui, un petit coup de coude au cinéma de science-fiction américain qui est classique, quoi. Independence Day, la guerre des mondes, où voilà, c'est l'Amérique qui est visée.
New York,
là, non, c'est Johannesburg, et c'est vrai que ça donne un côté, oui, ça joue sur l'esthétique déjà avec ces bidonvilles.
Il y a un décor naturel déjà, donc qui sert le film, et puis après, c'est aussi, justement, c'est ce que disait Brice, il y a une espèce de condamnation, quoi, d'un État, déjà.
Mais ce contexte, c'est pas anodin de placer son histoire. L'Amérique, c'est presque neutre après. Ouais. Mais placer son histoire en Afrique du Sud, là, ça démontre d'une certaine, certain engagement, une volonté de dire certaines choses.
Et d'ailleurs, justement, enfin, aussi défendre, comment dire, les populations qui sont justement dans ces bidonvilles contre les multinationales, on va dire. Dans le sens où la multinationale, le MNU, là, exploite en fait cette espèce de cloaque pour pouvoir aller faire ses petites recherches sur les aliens tranquillement, de manière insidieuse. Ce qui est aussi une facette du film, cette espèce d'utilisation en fait pour l'armement. Enfin, c'est un petit peu abordé aussi ce sujet, quoi, le sujet de l'armement.
Oui, c'est presque un thème central, même le rapport entre ces humains et ces aliens. C'est vraiment ce qui fonde l'histoire, avec ce personnage qui passe d'un camp à l'autre. Mais oui, on peut peut-être...
Pas trop en dire, quand même.
Oui, on va pas trop spoiler, c'est vrai que pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce jeu entre, d'un côté, les humains, qui vont exploiter les crevettes qui sont débarquées au-dessus de Johannesburg. Et bon, on peut difficilement passer à côté de la métaphore principale sur l'apartheid d'un côté, sur la gestion de l'immigration un peu partout dans le monde aussi, parce que le coup de mettre les immigrants dans des camps, ça se passe même en France. Donc
voilà. On est toi en France, l'actualité l'a démontré. Hein. Mmh. On est toi en ce moment.
Ouais. Mais donc, moi, c'est deux points là qui c'est des points qui sont assez rarement traités dans le cinéma de fiction, ou alors s'ils sont traités, ils sont rarement traités conjointement. Mmh. C'est vrai que l'apartheid, il y a eu des films historiques dessus, la gestion de l'immigration sans doute aussi. Moi, ça m'a fait penser à un film, je sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'est État d'urgence, un film avec Bruce Willis où on décrète un état d'urgence parce qu'il y a eu une attaque terroriste et on commence à parquer toute la communauté maghrébine d'une ville américaine. Et il y a ce côté-là où on va s'intéresser à cette propension qu'ont les humains à parquer d'autres humains quand ils les gênent.
C'était présent, mais pas centralement aussi, dans Children of Men, où on voit que tous ceux qui sont exclus de la société, effectivement, sont parqués dans des villes abandonnées, en fait.
C'est vrai,
grand film d'anticipation d'Alfonso Cuarón.
C'est vrai que c'est... j'avais pas pensé à ça, mais il y a quand même toute cette partie qui se passe dans une sorte de camp de rétention aussi d'immigrés dans Children of Men.
Et donc, pour compléter ça, il faut avouer que dans District 9, en fait, justement, cette espèce de décalage entre les hommes et les aliens, comme c'était souligné aussi au début de la chronique, les hommes passent un petit peu pour les méchants, presque, on va dire. Ils sont calculateurs, ils ont recours assez facilement à la violence, ils sont organisés, leurs actions sont réfléchies. Et à l'inverse, les aliens, eux, ils paraissent assez timides. Enfin, vous vous en rendrez compte en voyant le film, mais ils sont pas entreprenants, dispersés, il y a pas de meneur, on sait pas trop, on a presque l'impression qu'ils sont stupides, et il y a cette espèce de côté là qui est mis en avant sur justement l'homme n'est pas aussi bon que veut nous montrer le cinéma hollywoodien, entre autres, ou enfin les grands blockbusters.
D'autant que contrairement justement au massacre précédemment perpétré par l'espèce, par des humains sur d'autres humains, et là il n'y a pas besoin de déshumaniser déjà entre guillemets les créatures en question, puisque apparemment ce ne sont pas des êtres humains, ça c'est sûr. Alors que
par définition.
Et d'ailleurs sur ces aliens, j'en reviens aussi pour on se rend compte qu'ils n'ont pas donc de forme d'intelligence en fait dans le film, Et donc moi, ça me renvoie à la question. Enfin, je vais vous proposer un mini débat, quoi, très rapide, hein, très rapide. Un mini débat sur savoir. Donc, on a travaillé dessus avec toute une équipe de 5 personnes, 2 sociologues, des philosophes
éminences,
aussi,
des éminences, oui.
Pour vous proposer ce débat.
Voilà. Je vois bien. Oui.
Voilà.
Oui.
Ce débat, donc, je vous l'annonce tout de suite en direct. Enfin, pas en direct, mais malheureusement, les aliens pour ou contre.
Ardu là.
Fait réfléchir toute la nuit.
Plutôt contre.
Ah, plutôt pour.
Il y a des deux.
On le voit partout. Vincent, comme ça là.
Moi, je serais plutôt pour les aliens. Oui.
Plutôt pour.
Ah, oui, un peu de diversité. Enfin, oui.
Très bien. Ouais, diversité culturelle. Ben, on peut revenir aussi sur juste très rapidement sur la forme des aliens en fait. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu touché, c'est-à-dire que, comme ça a été énoncé précédemment, les aliens, on dirait un petit peu des crevettes, donc ils ont cet aspect insecte qui est
sous-évolué.
Voilà, enfin, pas forcément sous-évolué.
Ils rampent, ils marchent.
Non, ils marchent sur leurs deux pattes, en fait. Voilà, ils ont un petit peu des petites mandibules, tu vois. Ils ont des petites mandibules au niveau du thorax. Ouais. Et moi, je trouve ça un petit peu juste dommage qu'il y ait encore cet aspect-là insectoïde, on va dire, de l'alien. Qui a été déjà dans Starship Troopers. On peut peut-être rapprocher très vite les aliens du film
Aliens.
Je trouve ça un petit peu dommage qu'on arrive encore avec des gros cafards ou des trucs comme ça. Quoi.
T'aurais voulu quoi alors? Quand tu penses à Alien, tu penses à quoi?
Sans penser forcément à Alien, mais je pense par exemple à la forme d'extraterrestre qui est abordée dans Abyss, par exemple, tu vois.
Êtres lumineux.
Pas forcément lumineux, mais du moins qu'ils ont une matière qui est peut-être moins compréhensible.
Le globe, quoi,
quelque chose qui essaye de taper un peu la métaphysique.
Des femmes sexy et pulpeuses.
Non, mais c'est vrai que oui, faut pas oublier non plus qu'ils avaient un budget assez serré.
Pas non plus énorme. Oui, pour faire,
la plupart des aliens c'était un comédien qui endossait plusieurs costumes et il devait jouer une trentaine d'aliens.
Il y avait un alien dans ce film au final.
Le reste c'était des incrustations. Non, juste rapidement pour terminer.
Est-ce que on va faire un tour de table? On n'a qu'à faire ça, c'est bien ça.
Alors,
ça va
bien avec la musique. Pour ou contre finalement les aliens? Alors,
ça c'est déjà fait.
Ah, ça c'est fait, merde.
Mais quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter? Thierry, sur District 9, pourquoi aller le voir?
Pourquoi aller le voir?
T'as pas écouté l'émission,
Non, c'est un résumé.
Ça fait un quart d'heure qu'on essaye de te persuader d'aller le voir.
Ah, mais moi je suis convaincu. Alors, il cherche dans ses fiches. Bon, Martin.
Alors, donc, allez voir District 9 pour tout ce dont on a parlé, pour la richesse des pistes qui sont proposées par Neil Blomkamp, pour le côté fun de série B aussi qui nous offre dans la deuxième partie du film. Voilà, pour les amateurs de SF qui pourront reconnaître des références à En Vrac, Aliens, à La Mouche de Cronenberg, et aussi également à des jeux vidéo, puisque, pour retomber sur mes pattes, c'était une adaptation, enfin, la collaboration Blomkamp-Peter Jackson, c'était un jeu vidéo à la base, et dans le film, on retrouve, à mon avis, pas mal de clin d'œil à ce monde du FPS. On a ces plans de first person shooter avec le gun au milieu qui ne bouge pas et qui sert de point focal pour la caméra, et puis ce plan avec le cochon, quoi, qui est une référence.
Découvrez absolument ce plan.
Référence pour ceux qui ont joué à Half-Life 2. Voilà,
si vous êtes amateur de cochon et qu'en plus vous êtes joueur, un gros gamer, c'est bon, District 9, c'est bon. Brice, Boris.
Boris, donc. Moi, c'est Vicus, quoi. Vicus, je l'aime beaucoup. Donc pour Vicus, allez voir District 9, incontournable figure du héros, voilà, de l'anti-héros, du tout petit héros, du pas héros. Voilà.
Pas mieux que ce qui est dit précédemment, pas mieux.
Et Thierry, qui a retrouvé du coup sa feuille.
Je dirais que ce film, il faut aller le voir parce que sous une apparence très simple, il est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît et qu'il évoque beaucoup de thèmes.
Voilà, bon, pour un débat, tout le monde était d'accord. Hein. C'est juste ça que j'aurais noté.
On a tous aimé aussi.
Oui. Donc il fait l'unanimité, il est visible au Gaumont, au Royal et à l'Athénée de Lunel, mais tout cela en VF. Hein.
Non,
je ne me trompe pas cette fois-ci.
Au Gaumont en version originale sous-titrée.
Ah, allez le voir en version originale.
Ouais,
au comédie, ouais.
D'accord. Super. C'est rare.
Oui, mais c'est bravo, chapeau bas à Gaumont d'avoir fait ça, ouais. Parce que
d'ailleurs, on était 4 dans la salle.
C'est aussi confortable. Mais merci pour les 4 qui étaient là.
En plus des entrées non payantes, c'est vraiment commercialement, c'est un désastre.
Oui.
On passe aux événements de la semaine, puisque c'est la fin.
Les événements de la semaine, un événement, puisque on a préparé pendant 4 jours ce débat incroyable autour de District 9, et les événements sont un petit peu passés à la trappe. Du 23 au 29 septembre, 23 c'est aujourd'hui, donc d'aujourd'hui jusqu'au 29 septembre, vous avez au Diagonale Capitole la semaine du cinéma allemand qui débute, c'est la 7e semaine du cinéma allemand.
Des films inconnus, hein.
Des Nosferatu. Films complètement inconnus au bataillon, Nosferatu le vampire de Murnau, Goodbye Lenin également, que vous avez sans doute pas dû voir, parce que c'est un petit film allemand
avec une
musique sympathique également.
Oui, d'un breton.
Et donc, comme on disait aussi en début de ta chronique sur The Wall, c'est les 20 ans de la chute du mur de Berlin.
Exact.
C'est orienté donc sur ce thème-là. C'est des tarifs spéciaux. Je vois Nosferatu le vampire. C'est un film de vampire.
Nosferatu le vampire.
Tarif normal plus 3€. C'est lundi 28. Goodbye Lenin, c'est mardi 29. Vous avez une avant-première le 29 aussi à 21h45. C'est la révélation de Hans Christian Schmidt. Voilà pour la semaine du cinéma allemand.
Voilà. Eh bien, merci. Ainsi s'achève Cinérama. Merci Thierry, merci Brice d'être venu parmi nous. J'imagine que toi, Thierry, tu vas revenir.
Il y a des chances, oui.
Et toi, Brice, tu vas partir à Paris. Donc, de toute façon, c'est pour ça que je me permets de dire que tu ne reviendras pas forcément, sauf pour un autre débat, enfin, qui fera l'unanimité.
Non, c'est parce qu'on
l'aime
pas. Tout à fait. Voilà.
On se retrouve la semaine prochaine à 13h30. Et à la fin du générique, vous pourrez écouter un extrait de La meilleure façon de marcher avec Claude Pieplu et Michel Blanc, qui jouaient dans ce film de Claude Miller, où il y avait aussi. Comment s'appelle-t-il? Voilà, j'ai
Dewaere.
Un trou.
Patrick Dewaere.
Patrick Dewaere, voilà, absolument. Et Patrick Bouchité. À la semaine prochaine.
Ciao.
C'était amusant.
Les enfants, je dois vous annoncer un fait que je déplore, certes, mais Raoul Delous va devoir nous quitter. Raoul Delous, nous vous disons au revoir et à bientôt. Nous conserverons malgré tout un excellent souvenir de vous. Dites-leur donc quelques mots, non, ce serait très gentil et non, très élégant. Et d'ailleurs, Monsieur Delous va vous dire quelques mots.
Merde !
Cinérama.
Vous faites chier ! Vous faites tous chier ! Merde !
Bah ! Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.